vous avez rencontré Martin Rickenbacher, Stéphane.
Oui, qui travaillait à l'Office fédéral de la topographie à Berne, Suisse Topo. On peut être assez fiers, nos topographes au niveau international.
Ils sont
très reconnus. La Suisse fait partie des bons topographants. Je ne sais pas si ça se dit comme ça.
Allez, on dit.
Disons-le comme ça. Donc, Martin Rickenbacher, dans son métier au quotidien, il fabrique des modèles numériques, des cartes hyper spécialisées, justement grâce aux ordinateurs. Mais il est également un passionné de l'histoire de la cartographie. Il vient d'ailleurs de déposer une thèse à l'université de Bâle sur les cartes napoléoniennes. Alors avec lui, je vous propose de dresser une petite histoire effectivement de la cartographie en Suisse, en commençant avec les premières cartes qui ont représenté la Suisse, je dirais avant même qu'elle n'existe réellement politiquement.
C'était peu d'années avant 1500 que le Zurichois Durst, Konrad Durst, a dessiné une carte de la Suisse, une carte manuscrite. C'est une carte qui est orientée vers le sud. On voit les cantons, on voit les lacs de la Suisse. Ce qui est très intéressant, que malgré la Suisse consistait à l'époque des cantons d'hiver, Durst a eu une vision d'une confédération, ça veut dire il a représenté la Suisse comme conglomérat de divers cantons.
Donc c'est déjà presque une première vision politique alors exprimée sous forme de cartes topographiques.
Oui, il y a toujours eu de nets liens entre la situation politique de la Suisse et la cartographie.
Alors cette première carte qu'on a devant nous, c'est vrai que quand on la regarde et qu'on la compare à des cartes qu'on connaît, plus actuelles, ça fait un peu le pays des merveilles. Il y a des jolies petites collines, quelques lacs par-ci par-là qu'on reconnaît. Il y a le lac de Constance, le lac de Zurich, le lac des Quatre Cantons, le petit lac Léman, il est tout petit.
Oui, il a la bordure, il a la marge, le lac de Genève.
C'est assez naïf hein, comme dessin quand même, assez simple. Ça, on pourrait imaginer ça dans un livre d'enfant.
Oh non, moi je serais pas d'accord.
Je
trouve que là il y a beaucoup de détails qu'on peut seulement dessiner si on connaît le paysage. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas quel lieu est au sud de l'autre et quel est à l'ouest, vous ne pouvez pas dessiner cette carte. C'est une image assez abstraite. On voit les lacs dans des formes que peut-être aujourd'hui on les dessinerait différemment, mais quand même c'est une carte qui représente la Suisse de l'époque.
Alors en l'occurrence, vous nous dites, je dois savoir finalement tel lieu est au sud de tel autre, celui-ci est à l'ouest de tel autre, etc. C'est surtout comme ça qu'on fabriquait ces premières cartes, on prenait pas de mesures, on savait plus ou moins ce qui était au sud, à l'est, à l'ouest, et puis on essayait de dessiner ça ensuite sur une carte.
Oui, on n'avait pas encore les techniques pour mesurer le paysage. On avait des méthodes astronomiques pour déterminer latitude et longitude, mais la triangulation comme la méthode géométrique, on ne connaissait pas encore.
Cette carte-là, des gens s'en servaient pour voyager en Suisse ou c'est plutôt l'idée de se faire une idée un peu du lieu dans lequel on vit?
Oui, c'est une bonne question. Il ne faut pas s'imaginer que le voyager Durchschnittler, le voyager
le voyageur moyen,
avait une carte à disposition. Non, c'était une carte, était une chose pour l'élite, une chose pour les gouvernements, mais pas pour le peuple normal.
Alors là, nous sommes vers 1500.
Oui.
Et on va faire un grand saut de 200 ans à peu près pour tout à coup découvrir, alors cette fois-ci, le monde des cartes plus officielles. Là, on est dans les cartes encore non officielles et on fait un grand saut 200 ans plus tard où on commence à réaliser les cartes officielles de la Suisse.
En France, entre 1756 et la Révolution française, on produisait la carte géométrique de la France, la première carte d'un pays européen qui peut être considérée comme carte moderne.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de moderne tout à coup? C'est cette triangulation dont vous nous parliez?
Oui, la modernité, c'était la méthode de production. Dans les levées topographiques, on avait l'intention d'être géométriquement correct. Et entre 1760 et 1765, cette carte de France touchait la frontière ouest de la Suisse. Donc la région de Bâle était cartographiée sur la carte de France, ainsi comme la région de Genève.
Donc les Suisses ont tout à coup découvert cette nouvelle façon de cartographier, se sont dit « Ah bah tiens, ça pourrait être intéressant de faire la même chose chez nous ».
Juste, parmi ces cartographes suisses, Un des premiers, c'était le Genevois Henri Mallet, une des premières cartes modernes de la Suisse, produit privé. C'est pas officiel, hein. Il avait la permission de faire ça. Donc, le souverain lui a donné, le gouvernement lui a donné la permission, mais il a publié la carte sous titre privé.
Alors là, nous sommes, Martin Rickenbacher, fin du XVIIIe siècle, dans une carte qui est non officielle, hein, vous nous l'avez dit, c'est une carte officielle mais privée encore. Ça va devenir officiel vraiment avec un mandat d'État sous Henri Dufour.
Pour établir une carte à l'époque, il a fallu de la connaissance militaire. Toute la technique de production de cartes, de triangulation, c'était des techniques qui étaient enseignées à des écoles des génies, des écoles telles et telles, des écoles militaires. Mais d'autre part, d'avoir une vision uniforme de la Confédération, c'est sa prestation, et de cartographier une image uniforme derrière laquelle se cachait la disparité des cantons.
Donc le travail d'Henri Dufour...
C'est la carte topographique de la Suisse, 1 sur 100 millième.
Donc c'est vraiment un acte politique, alors, cette première carte.
Oui, ça se montre ici très évidemment la parallèle entre le processus de cartographie et le développement politique.
Cette carte, du coup, au niveau politique, est-ce qu'on l'a utilisée pour l'exposer à Berne, dans des lieux symboliquement forts pour, justement, qui représentent finalement la création de notre État fédéral? Elle a été aussi utilisée presque comme propagande, j'allais dire, pour cet État fédéral?
Oui, elle a été exposée en Suisse, dans des expositions nationales, par exemple en 1883. Donc, c'était un symbole national.
Est-ce que vous diriez que ça, par exemple, cette carte Dufour, la première carte officielle de la Suisse, c'est une carte qui est objective parce que elle représente absolument tout ce qui est présent dans les bonnes proportions. C'est une carte objective, neutre de notre pays?
Oui, c'était au moins le but de faire une carte objective. Objectif, c'est à comprendre dans ce sens que les méthodes de l'établissement étaient scientifiquement correctes, qu'on voulait vraiment de mettre de bonnes relations géométriques dans la représentation du paysage. On voulait déterminer des altitudes de montagne correctes. Donc, c'était vraiment le but de l'objectivité. Mais il faut être conscient que toute carte est aussi un produit subjectif.
Elle peut apparaître où, par exemple, sur cette carte, la subjectivité?
Oh, c'est difficile à trouver. Je peux bien vous montrer des exemples dans les cartes modernes, par exemple, dans les années 70 de ce siècle, siècle dernier. Mmh. Il y avait des cartographes qui ont dessiné des poissons dans des lacs.
Mais en l'occurrence, on sait qu'il y a aussi eu des cartes, alors ça date peut-être d'époques plus anciennes, où on mettait en avant, par exemple, le prestige d'une ville, ou le prestige, par exemple, des cartes faites par l'Église, où finalement on faisait ressortir tous les lieux forts de l'Église. Et du coup, on avait l'impression qu'en regardant cette carte, ces lieux étaient fort importants par rapport à d'autres qui l'étaient moins. Là, c'est pas le cas, en l'occurrence, avec Dufour et ses successeurs. On essaie d'être le plus objectif possible.
Oui, vous avez tout à fait raison. Les cartes ont toujours été un moyen de représenter le pouvoir. Et si vous dites ici, avec la nation moderne, le pouvoir est démocratisé, hein, le pouvoir n'est plus centralisé à un homme tel et tel, donc la cartographie peut mieux diriger vers l'objectivité sous des formes modernes, tandis que sous des formes anciennes du pouvoir, c'était peut-être une cartographie toujours un peu instrumentalisée dans le sens de celui qui a donné le mandat de produire la carte.
Voilà, reportage signé Stéphane Gabiou que l'on peut retrouver sur le site de l'émission.
rnj.rsr.ch. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'utilise plus du tout le système de triangulation inventé au XVIIIe siècle par les Français. Depuis sont arrivés les satellites, les vues aériennes, etc. Donc on travaille surtout avec des ordinateurs. D'ailleurs, aujourd'hui même, je peux vous signaler la sortie de la quatrième version de SwissMap. C'est une version digitale des cartes topographiques avec pas loin de 80 cartes réunies sur un DVD. Il y a plein de fonctions, évidemment. évidemment qu'on trouve et qu'on trouve pas sur une carte en papier. Donc c'est intéressant, ça s'appelle Swissmap. Puis juste pour terminer, parce que Martin Rickenbacher, il m'a fait plein de cadeaux, j'ai eu la chance d'aller là-bas,
il m'a fait des vraies cartes.
Des vraies cartes de Dufour de l'époque, de Lausanne notamment, de ma région d'origine. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance et il m'a aussi offert cette carte qui est parue au même moment au moment des premières cartes officielles, c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, une carte imaginaire qui représente le royaume de l'amour. Il y a le pays des heureux, le territoire des idées fixes, la mer des hésitations dans l'amour. Voilà. Et il en faut aussi la terre de l'amour qui pleure, le pays de la paix. Puis vous voyez, moi je vous ai rajouté ici tout en bas sur la colline de la beauté.
Oh, c'est gentil, merci Stéphane.